Je suis vraiment heureux d'être avec vous, ma famille, mes frères et sœurs, mes amis. Je suis tellement content d'avoir entendu Aurélien présider ce culte. Franchement, il y a longtemps que je n'ai plus vu Aurélien et qu'est-ce qu'il a mûri dans sa foi, dans sa vie avec le Seigneur. Ça fait chaud au cœur. Et puis tout ce groupe de louanges, c'est franchement, je crois qu'on était dans le ciel aujourd'hui. C'était déjà un avant-goût. J'étais heureux de ce temps d'adoration. Le titre de mon message aujourd'hui, « Si seulement ». Si seulement. Il y a là-dedans une condition qui aurait une conséquence. Peu de choses peut-être au départ, une attente, une aspiration, un pas, un geste, et le souhait deviendrait réalité. Un miracle se produit. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui dans l'évangile de Marc, au chapitre 5. Marc, chapitre 5. On va le lire paragraphe par paragraphe. Et le premier paragraphe, c'est les versets 21 à 24. Marc 5, 21 à 24, qui nous dit le contexte. Jésus regagna en barque l'autre rive. Et une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui le vit et se jeta à ses pieds et le supplia instamment en disant « Ma fillette est à toute extrémité. » Dans un évangile parallèle, il est marqué « Elle a 12 ans, elle est en train de mourir. » « Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Voilà le contexte. Jésus revient en Galilée, à Capernaum. Une grande foule l'accueille, se presse autour de lui. Tous l'attendent, dit le texte, tous l'attendent. Luc le précise aussi dans son évangile. Il faut dire que dans cette ville de Capernaum, où il a beaucoup résidé, il a déjà fait beaucoup de miracles. Il a guéri un lépreux, il a remis debout un paralysé, il a guéri la belle-mère de Pierre, il a rétabli l'homme qui avait la main complètement atrophiée, il a délivré aussi un homme de ses démons, de ses esprits mauvais qui l'habitaient. Il a changé la vie d'un collabo qui s'appelait Lévi et il en a fait son disciple. Là où Jésus passe et agit, il y a des situations qui changent. Certains critiquent, beaucoup l'ont critiqué, mais il y en a d'autres aussi qui l'admirent. Plusieurs qui le suivent et qui témoignent. Et on entend les gens dans la foule dire « Mais il fait tout à merveille !» Il parle vrai, il fait ce qu'il dit, il vient de Dieu. Ce n'est pas possible autrement, il vient de Dieu. Et aujourd'hui, dans ce texte que nous venons de lire, il y a un homme important, influent, qui arrive, c'est Jaïrus, le chef de la synagogue, pas n'importe qui. Ces hommes lui font un passage, ils bousculent, il y a urgence. Sa fille unique, qui a 12 ans, est en train de mourir. Au risque de se faire critiquer, peut-être même excommunier par les gens de son groupe de pharisiens, cet homme implore Jésus de venir à son aide, de toucher sa fille. Que ne ferait-on pas quand on a un enfant malade? Et Jésus part avec lui, ému par la foi de cet homme. Mouvement de foule, bousculade, laissez passer. Et dans cette foule, compacte, il y a une femme. Une anonyme. Une rien du tout à côté de Maître Jaïrus. Mais une femme qui se dit, si seulement. Et c'est ce qu'on va lire, versets 25 à 28. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert dans les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si seulement je peux toucher ses vêtements, je serai guérie. » Wow. Cette femme souffrait de ce qu'on appelle une ménorragie, des règles qui persistaient permanentes depuis 12 ans, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. Physique, psychique, morale, spirituelle. Imaginez sa faiblesse, son anémie, ses coups de fatigue, ses palpitations, ses vertiges, son essoufflement, son angoisse. C'est toujours pire. Pire que cela, à cause de cette maladie considérée comme impure dans la loi du Lévitique, elle pouvait contaminer d'autres, donc elle devait rester à l'écart des autres. Elle pouvait toucher personne. Elle était vraiment comme rejetée par sa famille, par la société et même à la synagogue. Toujours l'objet de jugements, de critiques, de méfiance. Elle se savait exclue. Elle était exclue. Elle en souffrait beaucoup. Vous pouvez l'imaginer, dans son corps, dans son âme, quel fardeau lourd à porter. Et à première vue, sans issue. Elle avait déjà tout fait pour être guérie. Elle avait consulté beaucoup de médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, mais sans résultat. Au contraire, ça allait de mal en pis. Plus de solution pour elle. À bout de ressources, il ne lui restait plus rien. Rien que ses souffrances, sa honte, le rejet, le repli, le désespoir. Comme dit ce vieux cantique, vous levez la main si vous vous rappelez les paroles de ce vieux chant du trio Emmanuel. J'aimais ce cantique quand j'avais 20 ans, il y a longtemps. Vers qui se tourner quand la source des larmes est tarie? Vers qui se tourner quand la mort semble plus douce que la vie? Quand son âme, du fond du néant, ne peut s'échapper, quand on ne sait plus que soupirer? Vers qui se tourner quand on offre au sien tant de malheurs? Quand le monde, quand vos amis sont là, de vos pleurs, quand le monde n'a pu vous consoler, quand on n'a rien de plus à ajouter. Vers qui se tourner? Et la réponse dans ce chant, c'est vers Jésus, qui a dit « Venez à moi, vous trouverez le repos, le vrai repos. » Quelqu'un connaît ce chant? Personne. Je suis du siècle passé, bien longtemps. C'est ce que cette femme s'est dit, si seulement. Comme tous les habitants de Capernaum, cette femme avait entendu parler de Jésus. Et comme eux, elle attendait. Il a tant de compassion, se disait-elle. Il a tant de bonté, il a tant de sagesse, il a tant d'autorité. Est-ce qu'il pourrait faire quelque chose pour moi? Peut-être pourrait-il faire un miracle pour moi comme il l'a fait pour tant d'autres qui en ont témoigné. Mais comment s'approcher de lui avec de telles foules? Et de plus, il est tellement affairé par Monsieur Jaïrus. Alors qu'elle, elle n'est rien du tout. Sans nom, sans grade, sans importance, sans force, sans même le droit de s'approcher. C'est perdu d'avance. ne te fais pas d'illusions, ma pauvre. Ce n'est pas pour toi. Non, elle refuse de s'arrêter là. Au fond d'elle-même, elle se dit, si seulement. Regardez le verset 28. Elle disait, si seulement je peux toucher ses vêtements, je serai guérie. Si seulement je pouvais toucher, non pas lui, j'en ai pas le droit, mais son vêtement, son rayonnement, son aura, sa grâce débordante, sa bonté, sa compassion qui vont au-delà des convenances. Lui, il ne met pas de limite. Il ne met pas d'obstacle. Alors, si seulement je pouvais m'approcher de lui et le toucher. Si seulement, elle ne dit pas « je serai guérie », elle dit « je serai guérie ». C'est beau, c'est un futur certain. L'assurance que son avenir en dépend, pas de doute, si je peux le toucher, je serai guérie. C'est sûr, quelle foi qui s'appuie au-delà des circonstances sur ce que Jésus est, sur ce que Jésus peut et probablement sur ce que Jésus veut, comme il l'a déjà fait pour tant d'autres. Alors pourquoi pas pour elle ? Première condition dans sa démarche, une foi sincère et toute simple. On peut se reconnaître là. C'est à notre portée, ça. Et c'est par derrière, incognito. Personne ne le saura. Il n'en saura rien. Qu'elle se faufile, qu'elle s'approche, qu'elle s'abaisse, au risque de se faire bousculer, de se faire écraser, qu'elle s'agenouille, vous allez le voir plus loin, qu'elle s'agenouille et qu'elle touche la frange de son vêtement. Ça, ce n'est pas dit dans ce texte-ci. Mais Matthieu et Luc disent, elle s'abaisse, elle s'agenouille et elle touche la frange de son vêtement. Regardez dans Luc, verset 8, chapitre 8, verset 44. Luc 8, 44, c'est important, vous savez, ce petit détail relevé par Luc et par Matthieu. Luc 8, 44, elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. Alors pourquoi la frange ? Pourquoi pas la manche ? Pourquoi pas la ceinture ? Qu'est-ce que c'est que cette frange ? Ce n'est pas un bout de fil qui dépasse d'un habit usé comme les jeunes mettent aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas ça du tout. C'est un tissu qui rappelle quelque chose. Regardez dans le livre des Nombres, au chapitre 15, versets 37 à 41. Nombre 15, versets 37 à 41. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux Israélites et tu leur diras, qu'à chaque génération, ils se fassent une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon violet sur cette frange du bord de leurs vêtements. Vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux qui vous conduiraient à vous prostituer. » Vous vous souviendrez ainsi de tous mes commandements. Vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Cette frange au bord du vêtement de Jésus, ce n'est pas pour faire beau. Ce n'est pas pour pavaner comme le faisaient les pharisiens. Eux, ils montraient vraiment, regardez les belles franges. Non, ce n'est pas pour se vanter, ce n'est pas pour se montrer plus spirituel, comme eux le faisaient et comme les religieux juifs le font encore aujourd'hui. Non, cette frange au bord de son habit, c'est un aide-mémoire. Pour ceux qui le suivent, regarde, souviens-toi, mets ma parole en pratique. C'est de Dieu que tu dois t'approcher. C'est lui qui va te sanctifier. Sérieusement, Le cordon violet te rappelle que quelqu'un a versé son sang pour toi. C'est pour cela qu'il y avait le cordon violet, pour rappeler le sacrifice de l'agneau. Pour que tu sois pardonné, pour que tu sois purifié, pour que tu sois sanctifié. C'est un aide-mémoire, c'est un rappel de la grâce de Dieu, pour que tu sois entièrement à lui et pour lui. C'est une invitation à une communion intime avec lui. C'est une exhortation aussi à l'écouter, à mettre en pratique sa parole. C'est un engagement à une nouvelle vie, restaurée par sa grâce, habitée par son esprit, mise à part pour lui, sanctifiée, humblement, sincèrement, mais de tout son être. Ce geste de cette femme, de s'approcher par derrière et de toucher la frange de son vêtement, en dit long sur son cœur. Montre qu'elle ne cherche pas seulement la guérison, la solution à son problème, mais la grâce de Dieu dans sa vie tout entière, la purification de son âme autant que de son corps. Cette approche, son aspiration profonde, si seulement, exprime son engagement à le suivre, à lui obéir, son désir de marcher dans ses voies avec amour, avec confiance. Petite remarque entre parenthèses, c'est peut-être pour ça que dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, versets 14 à 26, il est écrit que si nous voulons être guéris de nos maladies, nous devons demander aux anciens de prier pour nous. Mais en plus, confesser nos péchés, si c'est le cas, exprimer honnêtement notre volonté, notre désir de vivre dans la lumière du Seigneur, avec Dieu et les uns avec les autres, pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans nos vies. Que l'onction d'huile, ce n'est pas un acte magique. Que l'attitude de notre cœur humble, soumis, est très importante. Qu'une communion rétablie avec Dieu et les uns avec les autres, c'est vraiment, ça fait partie de la démarche. Amen, qu'il en soit ainsi. Et que chacun soit délivré, libéré, guéri, marche dans la lumière du Seigneur. Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions. Ce qu'il veut avant tout, c'est une communion, une amitié, une intimité rétablie avec lui. Donc, deuxième condition dans la vie de cette femme, après cette foi humble et sincère et toute simple, deuxième condition, c'est cette honnêteté, cette humilité. Et c'est à ce moment précis, quand elle touche la frange de son vêtement, avec tout ce que ça signifie, qu'elle est guérie, qu'elle le sait, qu'elle le sent, qu'un tournant s'est passé dans sa vie. Regardez au verset 29, Marc 5, 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Imaginez sa joie. Elle ressent en elle-même qu'elle est guérie, qu'elle est libérée, qu'elle est délivrée, qu'elle est changée. Le miracle s'est produit. Une nouvelle vie va commencer pour elle, transformée. Elle va pouvoir rentrer chez elle, sauvée, guérie. En douce, pense-t-elle. Avec beaucoup de reconnaissance pour la grâce manifestée, le désir de plaire à Dieu le reste de sa vie, c'est certain. En douce, c'est mal connaître Jésus. Il lui manque encore une chose. Entendre une parole de sa part pour elle et que lui puisse entendre une parole de la part de cette femme pour lui. Qui sera cet échange de paroles en un verset qui va être comme un saut, comme une borne sur sa vie. Regardez les versets 30 à 34. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Wow. « Qui a fait cela ?» demande Jésus. Est-ce qu'il ne sait pas ? Bien sûr qu'il le sait. Est-il agacé d'être interrompu dans son projet avec M. Jaïrus ? Non, il est toujours disponible et accessible pour ceux qui s'approchent de lui sincèrement comme cette femme. Est-il fâché qu'une force soit sortie de lui ? Certainement pas. C'est pour cela qu'il est venu, pour se donner, pour donner sa paix, pour donner sa vie à ceux qui s'approchent de lui, fatigués et chargés. Va-t-il la reprendre publiquement, la juger audacieuse, effrontée que tu es ? Mais pas du tout, pas du tout. C'est tout le contraire. Il va l'écouter, il va lui parler, il va établir une relation avec elle. Il ne va pas la laisser repartir comme ça en douce. Il va lui redonner sa dignité. Il va mettre son approbation sur sa démarche. Il va lui accorder sa grâce et sa paix. Il va l'encourager pour l'avenir. Il va lui donner un nouveau départ, un nom nouveau. Elle, elle tremble, elle se jette à ses pieds. Elle lui dit toute la vérité, ses échecs, ses luttes, ses aspirations. Elle n'a rien caché, ni à lui, ni aux autres qui sont là. Tant pis pour les gens, de ce qu'ils pensent, tant pis. Elle était désespérée, elle était culpabilisée, maintenant elle est libérée. Maintenant elle est délivrée, elle est guérie. Sa vie ne sera plus jamais comme avant. Elle le pressent, mais elle a encore besoin de l'entendre. De sa bouche, comme une promesse, comme un sceau. Et lui, humble et doux, accueille sa démarche, apprécie son cœur, vrai, sincère, humble, et il va y déposer, avec beaucoup de douceur, quatre paroles touchantes, d'encouragement, de consolation, de compassion, de promesse, d'assurance pour l'avenir. C'est beau, c'est puissant quand vous entendez Jésus vous dire par son esprit des choses comme ça, mais il n'y a rien qui remplit le cœur de plus de joie. C'est toujours ainsi avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Première parole, ma fille, tu n'es plus une étrangère, tu n'es plus une rien du tout, tu es mon enfant bien-aimé maintenant. Ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Deuxième parole, ta foi t'a sauvée, parce que tu m'as fait confiance, ton problème est réglé maintenant. Ça confirme ce qu'elle ressent. Troisième, va en paix. Ne t'inquiète pas pour la suite. Ma grâce est pour toi. Ça continuera. Rassure-toi. Et quatrième, sois guéri de ton mal. Tu n'es plus esclave, tu es libre. Relève-toi. Une nouvelle vie commence pour toi. Ça répond entièrement à son attente, si seulement. Il a répondu au-delà de ses espoirs. Alors, application pour nous. Quelles leçons tirer pour nous aujourd'hui ? Tu ne souffres certainement pas de ménorragie, en plus si tu es un homme. Mais comme elle peut être, tu souffres en cachette de certains échecs, de certains péchés. Tu n'en sors pas. Tu te sens coupable, indigne. Tu te sens coupé de Dieu et des autres. T'es comme prisonnier d'un mal incurable, dans ton âme, dans ton corps, dans tes pensées, dans tes relations. Et tu donnerais beaucoup pour en sortir, mais personne jusqu'ici n'a pu t'aider. Mon frère, ma sœur, comme elle, approche-toi humblement de Jésus. Il t'attend et il t'entend. Dans ta prière, quand tu t'approches de lui, dis-lui toute la vérité. Tu n'as rien à cacher. Il ne faut pas essayer de te justifier. Tu dis les choses comme elles sont. Et en plus, tu aspires et tu lui demandes son aide. Tu aspires vraiment à entrer dans le chemin qu'il a pour toi. Comme dit David dans le psaume 103, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. C'est lui qui rachète ta vie du gouffre. C'est lui qui guérit tes maladies. C'est lui qui veut te couronner de bienveillance, de compassion. C'est lui qui veut rassasier de bien le reste de ta vie. Personne d'autre que lui peut faire ça. Alors ce matin, n'entends-tu pas sa voix, le Saint-Esprit qui te dit à son tour, si seulement. C'est lui aujourd'hui qui te dit, si seulement tu t'approchais de moi, je m'approcherais de toi, Jacques 4. Si seulement tu revenais à moi, je te guérirais, Jérémie 4. Si seulement tu aspirais à vivre selon ma volonté, j'accomplirai, j'exaucerai tes désirs, Matthieu 5, 6. Je ne rejetterai jamais celui ou celle qui vient à moi, Jean 6, verset 37. Il te demande juste un peu d'humilité pour réaliser de quoi tu as besoin. Juste un peu de foi pour étendre ta main et accepter ce qu'il veut t'offrir. Juste un peu de courage peut-être pour lui dire toute la vérité. Ne rien lui cacher. Oser en parler peut-être à quelqu'un de confiance qui sera là, non pas pour te juger, mais pour prier avec toi. Alors fais ce pas, mon frère, ma sœur, fais ce pas. Et il te dira comme à elle ces quatre paroles tellement douces. Mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Sois guéri de ton mal. Et une vie nouvelle va commencer pour toi. Rétabli, libre, debout pour sa gloire. Que le Saint-Esprit puisse graver ça dans nos cœurs, de la part du Seigneur. Prions ensemble. Merci Seigneur Jésus pour l'exemple de cette femme, pour son audace, pour son humilité, pour sa confiance, pour sa sincérité. Merci aussi pour ta présence, ta disponibilité, ta compassion, ta compréhension, ta grâce et ta puissance qui n'ont pas changé aujourd'hui. On l'a rappelé tout à l'heure, tu es le même. Jésus, il y a parmi nous ce matin plus d'une personne écrasée, désespérée, à bout, qui entend ce message et ton Saint-Esprit qui dit « Viens !» qui s'approche de toi pour être sauvé, pour être libéré, pour être guéri. Merci Jésus d'entendre sa prière, d'entendre leur prière et de répondre au-delà de leur attente, de mettre ta main sur eux, de mettre ta paix dans leur cœur, de mettre le vrai repos dans leur âme, comme tu l'as promis, et de leur permettre de repartir, changer sur un nouveau chemin et de leur dire par ton Saint-Esprit, dans leur cœur, qui sont tes enfants bien-aimés, que la foi est vraiment ce qui te fait plaisir dans nos vies et que nous sommes guéris, nous sommes libérés de tout mal qui nous rendait esclaves et que nous pouvons aller en paix. Merci Seigneur. Amen. Qu'il en soit ainsi. J'ai envie d'ajouter, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'en parler à quelqu'un, si tu as besoin d'être soutenu, va trouver un ancien ou va trouver un frère, une sœur de confiance et dis-lui ta démarche, dis-lui ton besoin, dis-lui ta prière et priez ensemble. Approchez-vous ensemble du trône de la grâce, celui dont on a parlé tout au long de ce culte, avec assurance pour obtenir miséricorde et le secours opportun, au moment opportun, comme c'est écrit dans Hébreux au chapitre 4, nous pouvons nous approcher de Jésus aujourd'hui. Si seulement tu le fais, tu verras le résultat. Amen.